C'est toujours l'émission, c'est toujours le soir?
Oui, oui, oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok.
3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6.
Ok, c'est bon. Déjà quelques mois que nous ne l'avons pas entendu nous parler des petites bêtes qui vivent autour de nous. Jean-Joseph Desmottiers, vice-président et animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, est parmi nous. Bonjour Jean-Joseph.
Bonsoir Marie-Sara.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Bon, vous avez pu remarquer que le temps commence à rafraîchir un petit peu. Donc, il serait peut-être temps de penser à l'arrivée de ceux qui vont passer l'hiver avec nous.
Alors, de qui allons-nous trouver dehors, justement, à cette période?
Alors, en ce moment, il y a ceux qui restent et ceux qui viennent. Alors, ceux qui restent, ce sont ceux qui ont suffisamment de nourriture pour pouvoir rester. Les animaux, pour l'hiver, s'ils n'ont plus de nourriture, ils ont plusieurs possibilités de se comporter. La première, c'est de mourir. Bon, c'est pas le plus rigolo, mais c'est le cas des frelons, par exemple. Les ouvrières frelons meurent toutes, sauf les femelles enceintes. Fécondées, qui passent l'hiver cachées quelque part, mais il n'y a que les reines qui passent l'hiver cachées. Toutes les autres meurent. Frelons européens ou asiatiques, hein. Il n'y a pas de distinction. Après, on a ceux qui s'en vont. Par exemple, on a les hirondelles, les martinets. Ils ne mangent que des insectes volants. Et les insectes volants en hiver, ça ne court pas les rues. Donc, ils se disent, je vais aller chercher des insectes volants autre part. Et en Afrique, par exemple, là où il fait bon. Il y a ceux qui arrêtent de manger. Qui se disent, on va arrêter de manger. C'est le cas des loirs, des marmottes et autres, qui se disent, ou hérissons, qui se disent, bon, je me baffre pendant tout l'automne. Puis dès qu'il commence à faire froid, je me trouve un petit coin pépère où je ne vais pas geler et je vais roupiller jusqu'au printemps prochain. Ça s'appelle l'hibernation. Et enfin, il y a ceux qui changent de régime alimentaire. Par exemple, on va prendre la mésange. La mésange, elle, durant l'année, elle va manger des insectes, elle va manger des chenilles et tout ça. Bon, les insectes chenilles, on n'en a plus, mais elle se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il reste encore des graines pendant l'hiver. Et là, pendant l'hiver, elle va manger des graines, de la graisse, enfin tout ce qui va lui apporter des calories pour pouvoir survivre.
Alors, justement, ces animaux qui vont rester sur notre territoire, comment on peut faire pour les aider?
Alors, pour vivre, un animal a besoin de deux, trois choses. Un abri, déjà. Ça, c'est une bonne idée. Elle a besoin de boire. Elle a besoin de manger. Oui. Donc, on va parler pour les... Attends, on va couper après. Oui. On reprend. Pour l'abri... je vais surtout parler des oiseaux. Hein. Les oiseaux sont équipés pour vivre à l'extérieur normalement. C'est-à-dire qu'ils ont un plumage. Le plumage, si on regarde bien, il y a l'extérieur du plumage qui est très joli, mais surtout étanche, et puis qui coupe bien, qui isole du vent. Sous le plumage, vous avez une sorte de duvet qui maintient au chaud. Donc c'est la petite doudoune, la couette ou la polaire pour nous. Voilà. Et c'est très rare qu'un animal meurt de froid en hiver. La seule chose qui va l'empêcher, c'est de ne plus avoir suffisamment de carburant à mettre dans son petit radiateur central pour chauffer. Il y a ça. Bon, après, il y a l'abri. En général, les animaux se débrouillent très bien tout seuls pour trouver un abri. Ils vont trouver, le long des maisons, du lierre, ils vont trouver la vigne vierge, vous voyez. Donc ils vont se cacher derrière. Il y en a certains qui préfèrent des trucs moins naturels, par exemple des cabanes de jardin, la petite remise au fond du jardin où on met la vieille veste pour bricoler dans le jardin ou les outils. Bon là, c'est à l'abri du vent. C'est pas à l'abri du froid, mais c'est à l'abri du vent déjà et c'est ce qui protège bien. Donc les oiseaux vont chercher un endroit. Et là, s'ils tombent sur un ami des oiseaux, ils vont tomber sur des nichoirs. Vous dites, bon, attendez, un nichoir, ils ne vont pas nicher en hiver. Mais si, parce qu'en fait, ils se mettent dans les nichoirs, ils se mettent à plusieurs là-dedans, se tiennent chaud entre eux, et puis, et ça permet aussi, pendant qu'ils passent les nuits d'hiver bien cachées, de vérifier si le nichoir pourrait être utilisé plus tard pour faire les petits. S'il est bien orienté, si à la moindre pluie, il n'y a pas de plein de flotte qui rentre dedans et puis que les gamins vont mourir d'une bronchite carabinée. S'il est en plein soleil, ça va servir de cocotte minute aussi. Il y a ça. Et si l'entrée du nichoir est suffisamment grande pour qu'il puisse passer, mais suffisamment petite pour éviter que les prédateurs puissent passer, pendant tout l'hiver, ils vont tester le bon état, et puis aussi si le nichoir est efficace pour leur espèce.
Très bien, alors ça c'était question d'abri, donc leur donner un nichoir si on a possibilité de le faire.
Oui.
Vous avez parlé aussi d'autres raisons pour les aider, donc vous avez dit le nichoir, donc l'habitat, l'eau et la nourriture. Alors justement, pour l'eau, comment on peut faire pour leur en donner ?
L'eau. Alors déjà, l'eau est indispensable. Déjà pour boire et pour se laver. Parce que même en plein hiver, ils vont prendre des douches dehors. Ils sont courageux. Hein.
C'est clair.
Ça ne serait pas mon cas. Mais non,
alors justement, pourquoi ils vont se laver ?
Mais parce que le plumage, il y a toutes les poussières, ils vont courir dans la gadouille et tout ça. Donc il faut peut-être qu'ils soient un petit peu propres. Et surtout que leur plumage, il faut qu'il soit nickel. C'est-à-dire, bon, si on regarde bien, si vous regardez de tout près une plume, c'est assez plat, mais en fait, si on regarde vraiment de près, il y a les différents éléments de la plume s'accrochent entre eux. Et la plume, si elle est bien lisse, est étanche. L'eau va glisser dessus. Et en fait, les oiseaux possèdent aussi je vais employer un terme technique ce coup-ci, la glande uropygienne. La glande uropygienne, c'est une petite glande qui se trouve au-dessus du croupion et qui sécrète une graisse. Donc les oiseaux vont prendre avec leur bec un petit peu de cette graisse-là et lisser les plumes. Donc les plumes vont être bien, bien propres, bien lisses, bien, bien plates et recouvertes d'une petite pellicule de graisse sur laquelle l'eau va dégouliner. Voilà, comme sur une feuille de chou, par exemple. Vous voyez, ça fait une boulette d'eau qui se bat. Ça, c'est l'eau pour se faire propre, l'eau pour boire. Et puis le problème, c'est qu'en hiver, l'eau, elle a un petit peu tendance à geler.
C'est ça.
Voilà. Alors, j'ai vu des fous qui rajoutaient des choses dans l'eau pour l'empêcher de geler. Alors, il y en a qui mettent du sel. C'est pas ce qui se fait de mieux, loin de là. Il y en a qui vont mettre de l'alcool. J'en ai vu même des malades qui s'amusaient à mettre de l'antigel dedans. Oui, non, bon, l'antigel, les oiseaux, ça fait... c'est pas...
pas super bon ménage.
Pas super bon ménage. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est de changer l'eau et mettre de l'eau tiède. Bon, l'eau tiède, là, il n'y a pas de problème. Et surtout, changer l'eau, parce que les oiseaux sont des... un savoir-vivre assez limité quand même. Et alors déjà, se mettre, comme ça fait une petite coupelle, ils viennent debout dedans. Ils vont faire leur toilette. Donc il y a toute la poussière du plumage ou la boue des pattes qui va tomber dans l'eau. C'est pas ce qui se fait de mieux. Et les oiseaux peuvent être porteurs de maladies. Donc, laisser tomber les microbes ou les bactéries dans l'eau. Surtout qu'ils ne se jettent pas pour faire des cochonneries. Et si l'envie leur en prend de poser une petite pêche comme ça de temps en temps, tous les autres oiseaux en profitent et c'est comme ça que les maladies se propagent. Donc, vous leur donnez une bassine d'eau tiède, s'il fait vraiment très froid, vous changez une ou deux fois par jour l'eau tiède. Vous rincez surtout, vous ne contentez pas de rajouter, vous videz la baignoire et un petit coup de brosse dedans et vous remplissez avec de l'eau tiède.
Parfait. Donc, on reprend cette émission pour aider les oiseaux en hiver dans quelques instants après une courte pause musicale. De retour dans votre émission avec Jean-Joseph Desmottier, vice-président et animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe. Il est de retour sur nos ondes. Nous sommes dans la seconde partie de votre émission consacrée cette fois-ci à l'aide pour aider les oiseaux en hiver. Donc on l'a dit, hein, pour les aider, il faut leur proposer, si il vous est possible, un abri. Vous pouvez également leur mettre à disposition de l'eau et de la nourriture.
Non, c'est pas qu'on peut, c'est il faut leur donner.
Alors, on a parlé justement comment mettre de l'eau à leur disposition. Alors, on le rappelle, le mieux, c'est de leur mettre de l'eau tiède, sans ajout à l'intérieur, et la changer régulièrement pour ne pas propager les épidémies.
Très bien.
Donc, on va parler maintenant de la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut leur donner à nos petits oiseaux cet hiver?
Alors, ceux qui restent des oiseaux, il y a les insectivores, mais il n'y en a plus. Ce sont ceux qui ont changé de régime alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant manger de la graisse ou là où il y a de la graisse.
Comme les mésanges tout à l'heure.
Voilà. Il y a les frugivores, alors ceux qui mangent des fruits. Et il y a les granivores. Donc en fonction du régime alimentaire, il va falloir diversifier un petit peu la nourriture qu'on va leur donner.
Très bien.
Donc dans un premier temps, le fait de leur jeter des miettes de pain ou des quillons de pain, ça ne sert strictement à rien. À rien. Bon, je sais bien, ils se jettent dessus, le moindre canard va se jeter dessus. Mais en fait, le pain, il n'y a pas de calories dedans. La calorie, c'est quand c'est bien gras. C'est... Bon, je sais, diététiquement, pour nous, c'est pas bon. Mais pour eux, c'est indispensable. Donc, le pain, qu'est-ce que ça va faire? Ça va leur... ils vont picorer le pain, boire un coup de flotte après. Les miettes de pain vont gonfler dans l'estomac. Ils auront l'impression de satiété, c'est-à-dire ils ont l'estomac plein, ils se diront, bon, tiens, j'ai super bien mangé, mais en fait, il n'y a rien, c'est que du vent, enfin, c'est de la flotte, c'est rien, c'est... Non, alors là, vous évitez ça. Alors, il faut déjà éviter aussi de leur donner tout ce qui est salé.
Pourquoi?
Parce que le sel va leur forcer à boire, et puis c'est pas bon. Pour l'être humain, c'est pas bon. Il y a des histoires de tension artérielle et tout ça, donc on oublie.
Donc on évite les cacahuètes et les amandes.
On peut donner des cacahuètes et des amandes, mais non salées. Ça, il n'y a pas de problème. Les cacahuètes, c'est bourré d'huile. L'huile d'arachide, c'est du jus de cacahuète. Hein, c'est bon. Donc c'est bourré d'huile, donc c'est très bon pour eux.
Il y a de la matière grasse.
Il y a de la matière grasse et ils vont être contents. Il y a ça, mais surtout jamais salé. Voilà. L'idéal pour leur donner, moi ce que je cherche, c'est principalement des graines de tournesol. Je sais ça. Alors, si possible, du bio. Et si possible, du tournesol noir. Quasiment introuvable, mais... oui, je sais. Mais bon, déjà du tournesol même strié... Ça fera bien l'affaire. Les granivores vont se jeter dessus, décortiquer la petite graine de tournesol, enlever la peau qui se trouve autour et manger l'intérieur de l'amande qui est très très grasse. Il y a l'huile de tournesol aussi, tiens. C'est, voilà, donc ça c'est excellent. Comme graine, évitez les mélanges vendus dans le commerce, les mélanges dits des oiseaux du jardin. Alors, c'est un mélange de graines de provenance plus ou moins douteuse, de graines plus ou moins locales, voire exotiques, et les oiseaux ne sont pas bêtes. Ils vont faire le tri. Ils vont manger ce qui leur plaît. C'est-à-dire, bon, les graines de tournesol, le maïs, quand ils sont capables de l'avaler, le blé aussi, mais les graines de millet et tout ça, c'est les oiseaux exotiques connaissent, mais les autres, ils connaissent pas. Donc, ils vont faire le tri. Balancer les graines qu'ils ne connaissent pas et les manger que celles qu'ils connaissent. Et c'est-à-dire que l'année suivante, vous allez vous retrouver avec une pelouse, avec des plantes bizarres. C'est ça pour le moins bizarre. Donc là, j'ai laissé tomber. Et le mieux, en fait, l'idéal, c'est des graines de tournesol.
Alors, on les met dans un petit récipient qu'on met sur un tronc d'arbre.
Oui, il y a des distributeurs.
D'accord.
Vous avez déjà vu ça? Bon, c'est facile à faire. Hein. Vous prenez une bouteille en plastique, une bouteille d'eau, là, vous remplissez de graines, et vous la fixez, bon, ça, vous êtes assez bricoleur, et vous la fixez au-dessus d'une
coupelle.
Voilà, une coupelle, un bol, ou n'importe quoi, et que les oiseaux puissent venir picorer là-dedans, et que ça va se remplir au fur et à mesure, en fonction de... Avec tout ce qui reste dans la bouteille, et au moins vous n'aurez pas à remplir la bouteille toutes les 10 minutes. Là, c'est... Voilà.
Très bien.
Et il faut de la graisse aussi.
Alors, justement, vous l'avez dit, donc, le mieux, c'est les graines de tournesol,
oui.
Et il faut totalement éviter le sel.
Éviter le sel.
Alors, justement, concernant les boules de graisse.
Ah. Alors, il y a des boules de graisse vendues dans le commerce aussi, pas très chères. Et la graisse qu'il y a dedans, ça ne m'inspire pas confiance.
D'accord.
Franchement, non. Alors qu'il y a des trucs très simples. Alors, vous me direz, vous pouvez prendre de la margarine ou tout ça, mais la margarine, c'est fait avec de l'huile de palme, et on sait les dégâts que ça fait, qu'on fait, pas l'huile de palme elle-même, mais bon, la plantation des palmiers à huile du côté de Bornéo et tout ça en Extrême-Orient, en Indonésie. Et bon, c'est pas... Pour garder les orangs-outans, c'est pas plus mal. Évitez l'huile de palme. Par contre, dans votre quartier, vous avez un boucher. Un boucher qui vend de la viande, et la graisse, il ne sait pas quoi en faire. Donc, il est obligé de payer pour se débarrasser de cette graisse. Si vous allez le voir avec un plus grand sourire, en étant poli, « Bonjour, monsieur le boucher, je voudrais bien... Est-ce que vous n'auriez pas de la graisse dont vous savez que faire ?» Et que moi, je vous prends tout ça. Il se fera un plaisir de vous l'offrir. Vous prenez la graisse. Vous la coupez en petits morceaux, vous la mixez. Vous voyez, parce que il y a toujours de la...
Des bouts de nerfs,
ce qu'on appelle. Voilà. Mm. Donc, on mixe tout ça. Vous convoquez les gamins du coin, parce que là, ils adorent ça. Vous leur collez, vous prenez des sacs poubelles. Vous faites 3 trous dedans. Un trou pour la tête, 2 pour les bras. Parce que c'est... Et ils vont patouiller ça. Et vous mélangez par égal de la graisse et des graines de tournesol. Et ils vont faire des grosses boulettes comme ça, bien remuer tout ça. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez ou remplir des vieux pots de yaourt, par exemple, remplir une bûche, vous faites des trous de 1 cm de diamètre, et vous bourrez avec ce mélange-là. Vous pouvez prendre une pomme de pin. Enfin, pas une pomme. Oui, une pomme de pin. Quand elle est ouverte, vous calez de la graisse dans la pomme de pin et vous allez accrocher la pomme de pin dans un arbre. Comme ça, les oiseaux viendront picorer là-dedans. Ils auront l'impression de manger des graines de pin. Alors que c'est des graines de tournesol, mais il ne faut pas leur dire. Ou des bouts de branches de sapin aussi. Vous avez la poitue et vous gardez des petites branches latérales. Vous tassez la graisse dedans et vous accrochez la petite branche dans le sapin. Ça fait presque une décoration de Noël, mais bon, à l'envers. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... Bon, et puis après, vous avez assez d'imagination, hein, vous remplissez... Voilà, mais vous leur donnez à disposition. Et surtout, en mettre plusieurs. Parce que dans le jardin, il y a il y a une hiérarchie qui se fait.
D'accord, donc il ne faut pas toujours mettre au même endroit la nourriture.
Ah non, 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 pas. Non, non, parce que là, vous avez les kékés qui vont arriver, qui vont se servir, et le petit oiseau tout timide, tout ça, qui n'osera pas, il va attendre que les autres soient bien gavés pour pouvoir se servir, s'il en reste. Alors donc, par exemple, à la maison, moi j'ai une sorte de hiérarchie dans le jardin. D'abord, ceux qui se servent, j'ai la chance d'avoir des piques épaisses qui viennent, ce sont des piques noires et blancs avec un petit peu de rouge sur la tête. Ceux-là, ce sont les plus costauds, enfin les plus baraqués avec le bec le plus long. Et là, les autres le respectent. Ils sont sur le fil à linge, ils attendent tranquillement que l'autre ait fini. Là, c'est le pique épaisse. Une fois que le pique épaisse a bien mangé, après, ce sont les plus nerveux. Il y a les moineaux. Il y a les mésanges bleues, qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, la mésange bleue, elle est toute petite, mais elle est teigneuse comme c'est pas possible. Il y a les chardonnerets, les verdiers, qui eux se servent. Puis au fur et à mesure, chacun va pouvoir se nourrir. pour arriver jusqu'au plus timide, la maison de charbonnière par exemple, qui viendra presque à la fin. Sachant que quand ils vont manger ça, ils vont évidemment ils ne mangent pas proprement et ça, il y a des petits bouts qui vont tomber à terre. Et là, à terre, vous aurez d'autres oiseaux qui vont venir picorer, le rouge-gorge, vous aurez la senteur mouchée et autres, qui viendront, eux, picorer dans les
restes qui sont tombés par terre.
Voilà.
D'accord. Voilà. Parfait.
Aussi, je vous avais parlé des frugivores aussi tout à l'heure. Alors, les frugivores, par exemple, le merle, on va prendre le merle, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a plus beaucoup en ce moment, ils ont eu un problème, mais bon. Le merle a un bec, mais le bec est assez grand, mais n'est pas assez costaud pour casser les graines.
D'accord.
Donc, eux vont plutôt manger du fruit. C'est-à-dire, si vous avez des pommes chez vous, bon, vous n'allez pas mettre des pommes toutes belles, toutes propres. Non. Si la pomme est un peu attaquée, au lieu de jeter tout ça au composteur, la pomme, vous la laissez traîner dans un coin du jardin assez dégagé. Et là, les merles vont se régaler de manger le contenu de la pomme. Vous voyez ? Le bec est suffisamment costaud pour piquer dans la pomme, mais voilà.
Très bien.
Voilà, pomme, poire, enfin tous ces genres de fruits-là.
Alors justement, vous l'avez dit, hein, on peut mettre la pomme ou la poire du coup dans un coin du jardin, les merles vont se régaler, et quand nos amis les plus kékés des oiseaux vont manger les boules de graisse et que ça va tomber par terre, les petits rouges-gorges vont manger ce qui va tomber.
Voilà.
Justement, est-ce que c'est pas dangereux pour eux avec les chats qui rôdent, qui eux ne migrent pas ?
Voilà, alors si vous mettez à manger, vous vous arrangez pour que ce soit sur un endroit dégagé. Déjà, rien que pour vous, ça sera plus facile à les regarder, parce que bon, il faut bien profiter du spectacle. Et surtout, les chats, pour éviter que les chats n'approchent de la mangeoire, et se servent à manger sur les petits oiseaux. Qu'est-ce que je voulais dire ?
Comment on fait pour pas que les chats ils mangent nos petits oiseaux ?
Ah ! Alors, il y a déjà la distance réglementaire. Il y a autre chose, c'est de mettre un grelot au collier du chat. Mais j'ai vu des chats pervers, qui... j'en ai vu une fois, il avait un grelot autour du collier, et il m'a marché sur trois pattes, et la quatrième patte, la patte avant, servait à bloquer le grelot pour ne pas faire de bruit, et il se rapprochait des oiseaux. Alors là, on a trouvé la perversité. Non, bah, pervers ennemi. On lui a mis deux grelots, bien espacés. Comme ça.
Il ne pouvait pas marcher sur deux pattes.
Voilà.
Donc il y en a forcément un qui faisait du bruit.
Voilà. Donc il y a un des grelots qui faisait le bruit. Les oiseaux, ils ne pouvaient plus approcher discrètement des oiseaux. Et quand les oiseaux entendaient le petit gling, jetaient un œil. Oh là. Et s'envolaient.
Très bien. Parfait. Alors. Je vais aller poser mes mangeoires avant qu'il gèle, du coup, je suppose. Pourquoi ?
Non, pas avant qu'il gèle. Quand il va geler. Bon, là, ça y est, c'est parti. Là, on peut commencer à les poser. Et vous allez les nourrir jusqu'à ce qu'il arrête de geler. C'est-à-dire qu'on ne les nourrit que pour les aider à survivre en hiver. Si au printemps, vous continuez à les nourrir, les oiseaux ils vont aller au plus simple. Mais pourquoi ils iraient se casser à aller chercher de la nourriture alors que vous lui en donnez
toute l'année.
Et le fait de ça, il faut pas oublier que l'année prochaine, ils vont faire des jeûnes. Et les jeunes ont besoin de protéines pour grandir. C'est-à-dire que si les jeunes sont nourris qu'avec de la graisse, on va en faire des petits Américains. Vous voyez, des machins bourrés de hamburgers et tout ça. Mais là, c'est pareil chez les oiseaux. Ils vont grandir, mais enfin, ils vont surtout grossir. Non, il faut pour les poussins, il leur faut des protéines. Donc, il y a des protéines et des chenilles. Protéines pour pouvoir grandir, des chenilles pour les abreuver. Voilà. Et puis surtout, ils sont largement payés pour aller enlever toutes ces chenilles et tout ça dans le jardin. Moi, j'arrête de les nourrir dès qu'il commence à faire beau, dès que je commence à avoir des mouches et tout ça qui tournent, enfin des insectes qui tournent autour. C'est le printemps, et là, le printemps terminé. On nettoie toutes les mangeoires, bien comme il faut. On stocke ça dans la remise jusqu'au l'automne suivant.
Eh bien, parfait. Donc, pour résumer, vous pouvez mettre à disposition un abri pour nos petits oiseaux. Des petits abris qu'on crée, qu'on peut mettre accrochés dans les arbres ou à la maison.
Ah oui, puis surtout les nichoirs. Ah, vous n'attendez pas le printemps pour poser les nichoirs. Les nichoirs, vous allez les poser là maintenant. Déjà, si vous avez mis un produit dessus pour les protéger, même si c'est des produits bio, hein, l'huile de lin et tout ça, c'est une certaine odeur. Donc pendant l'hiver, l'odeur va s'enlever et les oiseaux ne seront pas incommodés. Alors à plus forte raison, s'il y en a des fous qui peignent ça avec de la peinture chimique, quelle horreur. Non mais bon, il y en a.
Parfait. Ensuite, vous pouvez leur fournir de l'eau. Alors, surtout, l'eau, vous ne mettez rien dedans, même pas de sel, parce que c'est pas super top pour eux. Et vous mettez donc juste de l'eau que vous changez régulièrement.
De l'eau tiède, pour pas qu'elle gèle, gèle moins facilement. Et vous la changez régulièrement, même en brossant un petit peu la bassine.
Et pour les aider à garder la forme, vous pouvez les nourrir avec des boules de graisse que vous réalisez chez vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre artisan boucher pour lui demander de la graisse de bœuf qui vous aidera à élaborer les boules de graisse que vous mélangerez avec des graines de tournesol bio, bien sûr.
Bien sûr, enfin, c'est pas indispensable, mais ça n'en est que mieux.
Et on n'oublie pas, on arrête de les nourrir quand les insectes sont de retour pour ne pas les engraisser.
Très bien.
Eh bien, merci Jean-Joseph Desmottier. Vous pouvez nous contacter pour nous faire part des thématiques que vous souhaitez que nous abordions sur votre antenne. Vous pouvez le faire grâce à l'adresse mail redaction@radioprévert.fr, par téléphone au 02 43 46 36 80 ou via notre page Facebook. À très bientôt Jean-Joseph et merci.
Au mois prochain.
Au mois prochain.
Ok. Ouais,
c'est fait.
Good.
Ah, il est déserté ?